Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Jérôme Pérez. Astronome, est-ce que ce mot te qualifie comme il faut ?
Astrophysicien.
Astrophysicien. Tu as fait beaucoup de choses, mais une chose qui est particulière et dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est ton implication sur le festival de Florence qui, tous les étés, regroupe 20 000 personnes.
Oui, environ.
Hein, c'est tout à fait exceptionnel, où tout le monde s'amuse, tout le monde regarde le ciel et tout le monde parle de science. Mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, dans la série de ce que je suis en train de faire en ce moment, j'aimerais qu'on parle d'exemples d'erreurs scientifiques qui, souvent, ont été bénéfiques et qui font partie de l'histoire des sciences. Alors, j'aimerais que tu m'expliques une erreur à laquelle tu es assez attaché. De quoi s'agit-il ?
C'est une erreur à laquelle je suis particulièrement attaché, parce qu'elle est d'abord très vieille, elle permet de mettre en avant quelqu'un d'extraordinaire et de mettre aussi en avant une génération de scientifiques qui s'appellent les astronomes Lagides, qui vivaient sous la dynastie des Lagides à Alexandrie, au moment où cette ville est devenue géniale au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et donc là, on a construit la bibliothèque d'Alexandrie, dans laquelle il y avait des gens qui travaillaient, et il y a eu trois personnes qui se sont rencontrées. Il y a une unité de temps, de lieu, Archimède, Aristarque de Samos et Ératosthène de Cyrène.
Au même moment ?
À 10 ans près, ils ont vécu ensemble et ils ont travaillé ensemble, c'est quasiment sûr.
Alors, les trois noms que tu m'as cités, je dois dire que je pense que nos auditeurs n'en connaissent certainement qu'un seul. Tout le monde a entendu parler d'Archimède, mais peut-être pas des deux autres que tu vas nous présenter, peut-être.
Alors, il y en a un autre qui est très connu, hein. Ératosthène, il est assez connu. C'est celui qui a fait la première mesure du rayon de la Terre, en utilisant un puits et un bâton, en l'occurrence l'obélisque d'Alexandrie. Alors, on ne sait pas s'il a fait exactement cette expérience ou s'il en a déduit les calculs à partir de données qu'il a pu récolter, puisqu'il était conservateur de la bibliothèque d'Alexandrie.
On peut ajouter que beaucoup de gens pensent que la preuve de la rotondité de la Terre date de Christophe Colomb. Pas du tout.
Ben justement,
très, très, très longtemps.
Justement, c'est une autre erreur, ça. D'abord, on était persuadé que la Terre était sphérique depuis les Pythagoriciens, donc ça faisait déjà 2 siècles que dans le cercle des scientifiques, il n'y avait plus aucun doute sur le fait que la Terre était sphérique. Et on a calculé son rayon au 3e siècle avant Jésus-Christ, grâce à l'expérience d'Ératosthène, à 1% d'erreur. C'est-à-dire qu'on a trouvé 6400 km, une erreur de 1%. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et justement, comme tu le dis, à l'époque de Christophe Colomb, la Terre avait considérablement rétréci pour des raisons religieuses. Une Terre de 6400 km de rayon, ça fait 40 000 km de circonférence, et c'est incompatible avec ce qu'on avait découvert à cette époque. Et donc Dieu ne pouvait pas avoir créé un truc aussi grand, et ça servait à rien.
Alors, revenons au troisième larron de ton histoire, qui pour le coup est probablement très peu connu.
Alors lui,
des gens qui nous écoutent.
Lui, il n'est pas du tout connu, c'est Aristarque de Samos, et c'est mon préféré. Alors lui, il a fait des choses absolument incroyables, c'était l'astronome de la bande, on va dire. D'abord, il a fait une mesure assez simple, que tout le monde peut faire. Il a mesuré que la Lune mettait une heure pour parcourir son diamètre.
Dans le ciel.
C'est pas dur à faire comme expérience, il suffit d'avoir des étoiles de référence et de voir comment la Lune se déplace par rapport à des étoiles de référence, d'avoir un chronomètre, un sablier ou une clepsydre comme ils avaient à l'époque, et de mesurer que la Lune met une heure pour se déplacer de son diamètre. Donc ça, c'est assez facile à faire. Il suffit d'avoir un bon coussin, de s'allonger dans l'herbe et de regarder la Lune quand il fait pas trop froid. Et ensuite, la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il observe une éclipse de Lune. Alors ça, c'est une éclipse de Lune, c'est assez courant, c'est à peu près tous les 6 mois. Ça se passe en pleine nuit et on peut observer que la Lune disparaît pendant 2 heures. Donc si la Lune disparaît pendant 2 heures, elle parcourt 3 fois son diamètre, compte tenu de ce que je viens de dire. Ah oui, c'est une histoire d'intervalle.
C'est une règle de trois.
Voilà, c'est une règle de trois compliquée. Aristarque en déduit que puisque elle entre dans l'ombre de la Terre, si cette ombre est un cylindre, approximation, c'est un cône normalement, mais d'ici la Terre et la Lune ne sont pas trop loin par rapport au Soleil, ben l'ombre de la Terre c'est un cylindre, et donc si en traversant ce cylindre elle met 2 heures, ben ça veut dire que la Lune est 3 fois plus petite que la Terre, tout
malin.
Simplement. C'est un malin. C'est déjà... Donc on est au 3e siècle avant Jésus-Christ, il démontre que la Lune est 3 fois plus petite que la Terre.
Et alors, son copain avait mesuré
le rayon de la Terre, et donc il a la taille de la Lune. Pas mal.
Pas mal. Et là aussi, c'est assez précis.
Ah ben oui, c'est très précis. Alors, ce qui n'est pas très précis, c'est que l'ombre de la Terre, ce n'est pas un cylindre, c'est plutôt un cône. Il est un peu évasé parce que, bon, il y a des jeux d'ombre et de lumière, mais ça marche pas mal. Deuxième point, et c'est là que dans toutes les belles histoires, il y a toujours un triangle rectangle, il fait une autre observation. Il observe la Lune dichotome, comme il dit, c'est-à-dire le premier quartier ou le dernier quartier. Et là, il se dit, si tout ça, c'est un jeu d'ombre et de lumière, quand la Lune est en premier quartier, eh bien, il y a un magnifique triangle rectangle qui se dessine dans le ciel avec, aux 3 points, la Lune, la Terre et le Soleil. Puisque la Lune est éclairée exactement de moitié, c'est qu'elle occupe l'angle droit du triangle rectangle formé par la Lune, la Terre et le Soleil.
D'un côté ou de l'autre, suivant que c'est le premier quartier ou le dernier quartier.
Exactement. Et donc, il se dit, si je mesure l'angle que fait la position de la Lune et la position du Soleil alors que j'observe un premier quartier, j'aurai un angle dans ce triangle supplémentaire à l'angle droit, et donc j'aurai le dernier. Parce qu'on savait que la somme des angles fait 180 degrés, grâce à son copain Euclide.
Qui n'était pas bien loin non plus.
Qui était un siècle avant. Il en déduit, par ses mesures, que l'angle que fait le troisième côté, là, du côté du Soleil, ne peut pas être supérieur à 3 degrés. Alors, il a utilisé pas les degrés, mais c'est pas grave. Donc, c'est un tout petit angle. Et donc, il savait que quand on a un tout petit angle, on pouvait linéariser la tangente, comme on dit maintenant, mais on peut appliquer une formule. Et donc, il en a déduit le rapport entre la distance de la Lune et la distance du Soleil. Et selon ses calculs, avec ses mesures d'angle faites avec des bambous, hein, des bâtons, il en déduit que le Soleil est au moins 20 fois plus loin que la Lune.
Et en fait, la Lune, c'est 384 000 km.
Oui, c'est beaucoup. Là, c'est, voilà. Et le Soleil,
c'est
150 millions de kilomètres.
Millions.
Oui, 150 millions, donc c'est beaucoup plus loin. Mais il obtient une valeur inférieure. Il n'a aucun moyen de mesure précis, etc. Il en déduit que le Soleil est au moins 20 fois plus loin que la Lune. Or, on observe des éclipses de Soleil. C'est-à-dire que la Lune arrive à cacher exactement, on voit très bien, les éclipses du Soleil, la Lune arrive à cacher exactement le diamètre du Soleil, et ça ne dure pas très longtemps, ça veut dire que la taille angulaire du Soleil et de la Lune sont les mêmes dans le ciel. Donc si elles ont la même taille angulaire et qu'il y en a un qui est 20 fois plus loin, ça veut dire que le Soleil est 20 fois plus gros que la Lune. Mais comme il avait déduit que la Lune était 3 fois plus petite que la Terre, il en déduit que le Soleil est au moins 6 fois plus gros que la Terre. Conclusion, pourquoi faire tourner la torche autour de la mouche? Le Soleil est une énorme boule, puisqu'elle est au moins 6 fois plus grosse que la Terre. Qui peut nous expliquer que le Soleil est gros, si on ne fait pas ce genre de petits calculs? Alors que là, il démontre que le Soleil est au moins 6 fois plus gros que la Terre. Le Soleil est chaud, puisque c'est lui qui nous apporte la lumière, ça c'était une conclusion des pythagoriciens. Donc si le Soleil est à l'origine de la lumière qu'on reçoit, il est chaud, il est beaucoup plus gros, pourquoi faire tourner la torche autour de la mouche? Et donc, c'est le premier à proposer une hypothèse héliocentrique, alors qu'à l'époque, on pensait que le système était géocentré.
Mais personne ne l'écoute.
Alors si, ça fait un peu... il est cru, parce que d'abord, ça ne repose pas sur uniquement de l'argumentation philosophique, ça repose sur des calculs, tout ça, qu'on peut refaire, tout le monde peut refaire ses calculs, on trouvera toujours la même chose. Mais il y en a un qui ne va pas le croire et qui va remettre en question son hypothèse. Il va dire, écoute, je suis d'accord avec toi d'un point de vue sur l'élégance de ta théorie. Mais si la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, elle parcourt un cercle, par exemple. Et donc, ce cercle a un diamètre. Et donc, ça fait que je vais observer les étoiles qui sont très loin, de deux points de vue différents entre les deux extrémités, sur le diamètre de ce cercle. Donc, par exemple, entre le mois de janvier et le mois de juillet, je vais observer les étoiles de deux points de vue différents dans l'univers. Et donc, je devrais voir, si les étoiles ne sont pas trop loin, je devrais voir un mouvement qu'on appelle un mouvement de parallaxe.
Autrement dit, les étoiles ne devraient pas être toujours au même endroit suivant le moment de l'année.
Exactement. Et celui qui fait cette remarque à Aristarque, c'est Archimède. Et Archimède était motivé par ce genre d'études parce qu'il essayait de compter le nombre de grains qu'on pouvait mettre dans l'univers tout entier. Parce qu'il était en train de réfléchir sur la façon d'inventer des grands nombres.
De grains de sable.
Exactement, des grains de sable. Et donc, pour calculer le nombre de grains de sable qu'on pouvait mettre dans l'univers, il lui fallait un volume de l'univers.
Mais je te coupe une seconde. Si aujourd'hui, on dit à un de nos contemporains que Archimède voulait compter le nombre de grains de sable qu'on peut mettre dans l'univers, on va dire, mais il est fou celui-là, pourquoi il s'intéresse à cette question, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça?
Eh bien, je réponds que, justement, Archimède cherchait un... Le problème en lui-même n'a aucun intérêt, mais on sait, par avance, que le nombre de grains de sable en question, s'il existe, va être grand. Or, un des problèmes qui se posait à ces mathématiciens grecs, c'était l'écriture des nombres. Vous savez très bien que l'écriture des nombres avec les chiffres romains n'est pas très pratique. L'utilisation des chiffres indiens, arabes, va apparaître bien plus tard. C'est pratique pour faire des calculs, ça a été à des fins commerciales que ça a été utilisé par Léonard de Pise, etc. À cette époque-là, on avait des problèmes pour mesurer les grands nombres. Et c'était la question que soulevait Archimède.
On n'avait pas la numération de
position, et c'était compliqué.
Des dizaines, des centaines, des milliers.
Archimède a voulu se confronter à un problème dans lequel, par avance, il savait qu'il allait avoir des grands nombres, et même des très grands nombres. Pour illustrer ses calculs par quelque chose qui ne soit pas complètement abstrait, il a cherché à évaluer le nombre de grains de sable qu'on pouvait mettre dans l'univers. Donc ce n'était pas purement gratuit, c'était à des fins de numérotation et de système de numération des grands nombres.
Que je peux ajouter un point sur ce texte que je trouve aussi, comme toi, merveilleux, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'un projet de recherche, dans le sens qu'il écrit son texte pour le roi de Syracuse, je crois, et en fait il demande des sous, il demande un financement, et on a l'impression qu'il écrit un texte finalement très facile à lire, dans le but de convaincre le pouvoir local, que c'est bien de soutenir la science.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est emblématique de la science de cette époque qui était financée. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est un peu le CNRS de maintenant. Mmh. C'était un endroit dans lequel il y avait des gens qui étaient payés par le gouvernement d'Alexandrie, notamment, pour faire de la recherche, pour développer la puissance et la gloire de ce royaume d'Égypte.
Alors, on continue ton histoire. Donc, Archimède, il calcule le nombre de grains qu'on peut mettre.
Archimède veut évaluer le nombre de grains qu'on peut mettre dans l'univers. Donc, il doit avoir un volume pour cet univers. Et donc, il doit calculer, ou estimer plutôt, la distance à laquelle se trouvent les étoiles.
On peut rajouter qu'à l'époque, les étoiles étaient toutes, qu'on appelait fixes à l'époque, étaient collées sur une sphère.
Voilà, elles étaient collées sur une sphère. Plutôt loin, on va dire, et cette sphère tourne autour de la Terre ou du Soleil, on ne savait pas trop. Alors Aristarque disait que c'était autour du Soleil, les autres disaient que c'était autour de la Terre, ne serait-ce que pour expliquer le mouvement qu'on observe, hein, qu'il y a une période de un an dans laquelle les constellations ne se déforment pas. Si la Terre tourne autour du Soleil, cette sphère des fixes apparaît de deux points de vue différents, suivant qu'on se trouve à deux points opposés diamétraux sur l'orbite de la Terre. L'hypothèse qu'avait faite Archimède, c'était d'estimer que les étoiles les plus proches, donc cette sphère des Sphinx, se trouvaient à 1000 fois la distance, à peu près 10 000 fois la distance Terre-Soleil. Il avait dit que ce n'est pas possible que ce soit plus loin, parce que sinon, celui qui a créé tout ça serait serait idiot parce que ça servira à rien d'avoir autant d'espace vide. Donc il avait fait l'hypothèse que les étoiles étaient 10 000 fois plus loin que la distance qui nous sépare de la Terre.
Donc ça, c'est l'erreur de Archimède.
C'est l'erreur d'Archimède.
Pourtant, on ne va pas trop critiquer Archimède tous les deux.
Non, non. Non, c'est extraordinaire. Il fait une hypothèse qui est tout à fait réaliste, oui. 10 000 fois plus loin. Il arrive à calculer le volume à partir des calculs précédents. Et là, il mesure quel doit être l'angle de variation des étoiles dans ce système-là. Et il trouve quelques secondes d'arc. Et ces quelques secondes d'arc, c'est quelque chose, une minute d'arc, disons, et c'est quelque chose qu'on aurait dû observer et qu'on n'observait pas. Donc en fait, il a réfuté l'hypothèse d'Aristarque pour une mauvaise, en faisant une erreur sur la distance qui nous sépare des étoiles les plus proches.
L'erreur d'Archimède, c'est une erreur sur son hypothèse initiale, où il pensait que les étoiles étaient beaucoup plus proches
qu'elles ne sont en réalité.
Parce que maintenant, tu vas nous dire, l'étoile la plus proche de nous, elle est à quelle distance ?
Ben, à quelques années-lumière, et donc c'est plutôt 100 000.
En termes de
mètres, c'est des 10 puissance 15, 10 puissance 16 mètres.
Et en termes de distance au Soleil ?
Alors en termes d'unité astronomique, ben, c'est plutôt de l'ordre du million.
Archimède pensait au plus 10 000 ?
Il avait un facteur 100, de l'ordre de 100. Donc il n'était pas si loin que ça quand même. Et alors, pour finir cette histoire, la première... Parce qu'en fait, il semblerait que la Terre tourne bien autour du Soleil.
Tu confirmes ?
Et donc, il y a bien un mouvement de parallaxe.
Oui.
Et ce mouvement de parallaxe, il a été observé pour la première fois par un mathématicien moderne qui s'appelle Wessel, en 1832. Et donc, en observant la position par rapport à des étoiles bien plus lointaines de certaines étoiles, dont par exemple Sirius... il a pu observer un mouvement, un léger mouvement d'oscillation dû au mouvement de la Terre autour du Soleil.
Est-ce qu'on peut conclure quand même en disant que dans ces époques lointaines, on ne savait pas trop qui était astronome, qui était mathématicien, qui était physicien ? Bessel, par exemple, était sans aucun doute un mathématicien, mais quand même un mathématicien qui mettait son œil au bout d'un télescope. On a une espèce de belle période pour la science, où tout le monde faisait un peu tout. C'est quand même un grand moment.
C'est-à-dire que c'était une époque aussi où les données expérimentales étaient beaucoup plus difficiles d'accès. Et les plus simples d'accès, avec une certaine précision, c'était les données astronomiques. Qui avait la faculté d'être accumulée depuis très longtemps. Et donc, à partir de ces données qui sont très lisses et très régulières, on peut faire des beaux modèles mathématiques.
Il y a une chose que tu ne nous as pas dite. Comment s'appelle le beau livre d'Archimède dans lequel il fait ses calculs sur le nombre de grains de sable ?
L'Arénaire. Un livre extraordinaire.
Est-ce que tu peux, je pense, le recommander à nos auditeurs ?
Bien sûr.
Parce que ça se lit même aujourd'hui.
Oui, oui, tout à fait.
Il y a des, bien sûr, traductions en français, entre autres. L'Arénaire, ça vient du mot latin arena, qui est le sable, sauf erreur.
Sans doute. Hein.
Très, très beau livre. Lisez ce livre, vous verrez le génie de quelqu'un comme Archimède, mais... Le génie qui est aussi empreint d'erreurs.
Oui.
Merci beaucoup, Jérôme.
Là, pour moi, le mouvement assez lent et assez régulier... Et un peu, pas empesé, mais presque. Quand je vois des images astronomiques, etc., il y a une musique que j'aime particulièrement bien. C'est une musique qui s'appelle, d'un groupe qui s'appelle Dire Straits. Et le titre, c'est Brother in Arms.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.